Faut que j'appuie sur le bon bouton. Je sais même pas si ça fonctionne. Si, c'est bon.
Non, non, c'est l'autre d'après.
Comment ça, c'est l'autre d'après? C'est pas celui-là?
Ah oui, c'est celui-là, pardon. Non, mais, ça commence bien, c'est du direct. Oui, parce que dans ce studio, pendant des années et des années, on avait le bouton de gauche qui était le bouton de l'animateur. Et là, je ne sais pas, avec ce nouveau plateau que l'on a, cette nouvelle console, ils ont mis le deuxième. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un moment. Il faut savoir changer et à nous de s'adapter. Bonjour à tous et bienvenue en direct. C'est toujours le direct sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h. On fait le point sur l'actualité scientifique, bien évidemment. On va parler de l'actualité, de l'espace, de la médecine. On voudra peut-être aussi faire un petit peu un point, même si on en parle un petit peu moins, et c'est tant mieux, parce que c'est un peu moins anxiogène, mais parler du Covid. Et j'ai trouvé un article assez intéressant de savoir si finalement, dans ces vaccins, si on nous injectait une puce 5G, parce que c'était une espèce de fake news qui traînait comme ça. Et finalement, on va en parler et voir que bah, c'est pas possible, les enfants. Hein. Scientifiquement, c'est impossible. Et on verra ça dans cette émission. Vous nous écoutez sur Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur internet en direct ou en différé parce que vous pouvez récupérer les podcasts. Vous suivez l'actualité de Graphite bien sûr sur Facebook. Alors, il y avait pas mal d'actualités sur VibraSOS, hein, j'ai écouté ça, j'en annonce moi deux, l'émission spéciale, et ça fait plaisir de retrouver la fête de la science à l'Université de Technologie de Compiègne. Nous serons en direct le samedi 9 octobre, donc dans 15 jours, horaire inhabituel pour Biotine, ce sera 14h-16h en direct au cœur même de l'UTC, et nous accueillerons les chercheurs sur le plateau en direct de la fête de la science, une édition assez particulière, parce que ce sont les 30 ans de la fête de la science, déjà 30 ans, et ne jamais oublier que ça avait démarré ici à Compiègne, cette fête de la science, donc émission spéciale le 9 octobre. Autre information, c'est le 24 octobre, c'est aussi la reprise, c'est là qu'on se dit que la vie est un petit peu plus normale et ça fait du bien, la reprise de la bourse au disque et au BD. Et là aussi, c'est quand même assez un événement, c'est déjà la 10e bourse au disque et au BD organisée par Graphite. Alors attention, c'est un lieu inhabituel pour cette bourse. C'est salle Marcel Guérin et c'est à Margny. Inscrivez-vous bien sûr sur graphite.net si vous voulez participer à cette 10e bourse au disque et au BD. L'entrée est gratuite et si vous êtes des fans de disques et des fans de BD, allez-y parce que c'est un événement, c'est vraiment un événement de grande ampleur. Depuis maintenant plusieurs années, c'est déjà la 10e édition. Donc voilà, la vie reprend son cours, ça se passe très bien. Ça me fait plaisir de retrouver Enrique également au micro, qui avait une petite voix aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a fait encore, il a fait des choses inavouables sûrement, mais il ne nous le dira pas. Tu sais Enrique, que j'ai pensé à toi cet été et un jour, nous ferons une émission ensemble parce que j'ai appris une chanson en portugais. Qui s'appelle Sonho Meu, que tu connais peut-être. Et donc du coup, on essaiera... Oui, je pense que c'est un grand classique, c'est ça. Et voilà, je l'ai appris cet été et je la chanterai dans cette émission que l'on fera en commun. Si vous souhaitez réagir en direct, 06 95 065 026, exclusivement par SMS. 06 95 065 026. Et merci à vous de nous écouter. Et donc merci à Léo qui est donc chez lui et qui essaye de reprendre la main sur la console. Mais normalement, ça devrait le faire. Moi, j'ai rien appuyé, j'ai rien à faire. Nous sommes le 25 septembre, ça passe déjà très vite. J'ai l'impression que cette saison va passer à une vitesse, il y a du soleil, c'est magnifique. Le 25 septembre 1921, c'était l'ouverture de la première autoroute au monde. Alors prenez pas l'autoroute A1 aujourd'hui, parce que j'ai mis énormément de temps, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé, parce que je suis arrivé un peu en retard. Faites attention, mais en tout cas en 1921, on ouvrait la première autoroute. En 1938, c'était l'inauguration du canal Rhin-Danube. En 1992, beaucoup plus proche de nous, et ça c'est intéressant, c'est la NASA qui lance la mission Mars Observer. Donc ça fait 92, ça va faire 30 ans que déjà on évoquait l'idée de partir sur Mars et donc on avait lancé cette mission. On parlera de Mars dans cette émission parce qu'on en sait un petit peu plus sur les analyses qui ont été faites de la roche de Mars. On verra ça dans cette émission. Et enfin, il y a un véhicule terrestre qui franchit pour la première fois le mur du son en 1997. Naissance de Thomas Morgan. Alors on ne le connaît pas parce qu'il est américain, c'est un embryologiste et un généticien. En fait, il a étudié pas mal de choses dans les années 1920-1930 et il a obtenu notamment le prix Nobel de médecine en 1933. C'est pourtant quelqu'un d'assez important que les généticiens connaissent parce qu'il a notamment été récompensé pour ses découvertes sur le rôle joué par le chromosome dans l'hérédité. Et donc Thomas Morgan est né le 25 septembre 1866 aux États-Unis. Décès le 25 septembre 1544. J'ai l'impression que c'est l'un des plus anciens scientifiques que l'on ait eu dans cet éphéméride. Il est donc décédé en 1544, à 25 septembre. C'est Valerius Cordus. Il est mort à Rome. Et à l'époque, vous savez, il touchait un petit peu à tout. Médecin, chimiste, botaniste. Il est considéré comme l'un des pères allemands. Parce qu'il est, il est mort à Rome, mais il a plutôt travaillé en Allemagne. Considéré comme l'un des pères allemands de la botanique. Valerius Cordus. Donc, c'est des noms qui ne nous évoquent pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir que au XVIe siècle, ça fait partie de ces scientifiques qui touchaient un petit peu à tout, qui étaient très, très curieux et qui ont quand même posé les bases de nombreuses théories, ensuite vérités scientifiques qui nous servent encore aujourd'hui, bien évidemment. Je voulais revenir dans cette émission consacrée à l'actualité scientifique. Je vais encore revenir à l'espace. Ça veut dire, on parle beaucoup d'espace, oui, mais on a très très bien compris que cette décennie 2020, c'est vraiment quelque chose qui va être un petit peu le fil rouge de cette émission. On va parler du retour en bonne santé, nous dit-on, de ces quatre spationautes, alors qu'on appelle même des spatiotouristes. Ils sont revenus dimanche dernier à 1h du matin. Ils ont atterri dans l'océan Atlantique au large de la Floride. C'était dans une capsule qui a donc transporté ces astronautes qui sont donc revenus. Alors, cette mission, elle va rester quand même un petit peu dans les annales pour être la première mission habitée sans astronautes professionnels, c'est-à-dire que ces gens qui étaient dans cette capsule étaient entre guillemets un peu comme vous et moi. Bon, ils avaient un petit peu plus d'argent, mais enfin bon, ça c'est quand même un petit détail, sinon le reste, ils sont comme nous. Et donc pour SpaceX, eh bien ça ouvre cette mission quand même l'ère de l'utilisation habitée de cette orbite basse, donc cette orbite assez proche de la Terre. Le but en fait, c'est de montrer que bien tout à chacun pouvait séjourner en orbite sans être astreint à des années et des années d'entraînement. L'équipage de cette mission qui s'appelle Inspiration, parce qu'on le dit en anglais bien sûr, Inspiration 4, parce que 4, parce qu'ils étaient 4 sûrement. En tout cas, cet équipage a quand même subi, parce que ça on le dit moins, 6 mois quand même de préparation. Ils ne sont pas quand même venus comme ça les mains dans les poches. 6 mois de préparation, mais bien évidemment, sans aucune mesure avec les exercices qui sont infligés aux astronautes des agences spatiales. Alors, évidemment, ce séjour touristique n'est pas comparable à une mission de plusieurs semaines ou même de plusieurs mois à bord de la Station spatiale internationale, bien évidemment, parce que les astronautes sont préparés pour essayer de maintenir en activité un petit peu le complexe de cette station. Donc, ils ont quand même certaines compétences. Là, ce n'était pas le but. Les spationautes de la Station spatiale internationale, dont Thomas Pesquet, sont sortis aussi dans l'espace. On l'a vu, ils réalisent des expériences. Certaines expériences sont quand même assez pointues. Là, non, on est clairement, en fait, quelque part dans du tourisme haut de gamme. Il faut quand même dire les choses. Même si, quand même, cette performance de ces quatre touristes est quand même à souligner. Parce que l'équipage ne s'est pas juste contenté d'observer le paysage et de profiter des joies de la pesanteur, parce qu'on apprend qu'ils ont quand même réalisé eux-mêmes aussi quelques expériences, notamment sur la santé. Ils ont récolté notamment pas mal d'informations sur tout ce qui est rythme cardiaque, sur le sommeil, sur le sang, sur leur capacité cognitive. Et ça va permettre, bien sûr, de mieux comprendre les effets de cet environnement spatial un petit peu inédit et particulier pour des débutants. Donc on a quand même profité de leur petit périple pour quand même essayer d'avoir des informations. Alors SpaceX prévoit d'autres missions commerciales et de tourisme spatial. La prochaine est déjà en cours de préparation et elle est prévue pour janvier prochain 2022. Il s'agit d'une mission à destination cette fois de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment y aller. Avec l'accord de la NASA, eh bien, toutes ces petites entreprises, ces entreprises genre SpaceX ou Axiom Space ont signé un contrat de lancement qui compte 4 missions habitées à destination de la Station spatiale internationale d'ici 2023. Donc ça va être quand même, ça va être un peu le périphérique. Au bout d'un moment, il va y avoir un encombrement. En tout cas, la mission va compter un astronaute professionnel qui est un ancien de la NASA qui s'appelle Michael Lopez Alegría. Et on n'a pas encore le nom des trois autres passagers qui vont participer à cette mission en janvier prochain. On suppose, il y a pas mal d'informations parfois qui circulent, on suppose qu'il y aurait un millionnaire israélien et peut-être, dit-on, l'acteur Tom Cruise, qui irait donc s'envoyer en l'air, pourquoi pas, et un réalisateur Doug Liman, si bien sûr leur planning le permet. Alors oui, je pense, à mon avis, que leur planning va leur permettre de pouvoir participer à cette mission et de partir en tourisme comme ça. Mais en tout cas, voilà, ils sont revenus dimanche dernier. Vous avez peut-être vu les images, bien sûr. Ça, il faut prendre. Enfin, je veux dire, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que c'est juste un petit plaisir de riche, soit on se dit que d'un point de vue scientifique et technique, c'est important. Moi, personnellement, je vais prendre cette deuxième vision parce qu'on a très, très bien compris qu'on est de plus en plus dans l'objectif de pouvoir envoyer des humains sur d'autres planètes. On le verra peut-être d'ailleurs parce que les échéances qui sont annoncées sont des échéances finalement assez courtes, parce qu'on parle de la décennie 2030. 2030, c'est quasiment demain, bien sûr. Et donc, le fait d'obtenir des informations comme ça, même pour des petites missions de personnes qui vont aller comme ça dans une orbite un peu basse, toutes ces informations seront évidemment utiles. Et bien sûr, on suivra un petit peu toute l'actualité de ces voyages de touristes, de spatio-touristes, tout au long de cette émission. Notamment, on essaiera de voir janvier prochain pour essayer d'en savoir un petit peu plus et peut-être essayer de lancer un concours pour ceux qui souhaitent partir dans l'espace, pourquoi pas. Apparemment, on a un petit peu l'impression que d'un point de vue physiologique, c'est jouable en fait. Je ne sais pas, moi qui suis malade dans les manèges, je ne sais pas si ça serait bien pour moi de partir avec SpaceX, mais je n'en sais rien. En tout cas, on essaiera d'en suivre un petit peu plus cette actualité, bien évidemment, dans cette émission. Autre chose concernant l'actualité de cette semaine, on a appris le décès de Clive Sinclair. Alors, Clive Sinclair, quelque part, c'est un nom, objectivement, qu'on ne connaît pas trop. Pourtant, on lui doit la calculatrice, on lui doit l'ordinateur individuel. C'était un Britannique qui est donc décédé il y a quelques jours à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer. Clive Sinclair, c'est un inventeur qui s'est fait connaître au début des années 80 avec ses ordinateurs qui s'appelaient Sinclair ZX. En fait, il s'agissait un petit peu de PC qui était dédié au grand public, dont c'était une vraie innovation à cette époque-là. Ils étaient vendus à un prix abordable, contrairement aux autres ordinateurs de l'époque, parce qu'à l'époque, un Apple coûtait 10 fois plus cher que ce fameux ordinateur ZX. Et Sinclair avait souvent un coup d'avance. Dès 1984, eh bien, il avait mis au point l'un des premiers ordinateurs destinés au grand public. C'était un ordinateur 32 bits qui s'appelait le Sinclair QL. L'ordinateur était animé par un processeur Motorola. Et on a retrouvé un petit peu tout ça ensuite dans les ordinateurs Macintosh d'Apple. Et il a été anobli en tant que chevalier par le Royaume-Uni en 1983. On va donc l'appeler Lord Clive Sinclair. Il est également le créateur, donc, que je vous le disais, de la première calculatrice de poche dès 1972, c'est-à-dire 2 ans avant la première calculatrice programmable qui était celle de Texas Instruments. Et donc, sans ce pionnier de l'informatique, eh bien, le monde du numérique serait certainement très différent parce qu'il a pu ouvrir cette espèce d'univers au cercle un petit peu familial, au cercle du grand public, et engendrer aussi des vocations de développeurs. C'est ça qui est intéressant. Dès les années 80, l'imagination et le talent de Clive Sinclair ne s'arrêtaient pas en plus à l'univers de l'informatique parce qu'il a également été l'un des pionniers de la mobilité électrique. La mobilité électrique, on en parle tous les jours aujourd'hui. Lui, il était déjà dans les années 80 dans cette thématique-là. Il a créé un tricycle électrique qui avait un petit peu une allure futuriste. C'était peut-être même un petit peu en avance sur son temps parce que finalement, ça a été un cuisant échec commercial. Et le problème, c'est que du coup, ça a un petit peu plombé son entreprise. Il a dû ensuite avoir le rachat de cette société par Amstrad en 1988. Et c'est pour ça qu'à partir de là, ce nom de Sinclair nous dit pas nécessairement grand-chose parce qu'on a plus en tête dans les années 80 Amstrad, Apple, bien évidemment. Et puis, Clive Sinclair avait également imaginé des projets qui ne se sont jamais concrétisés à l'époque, toujours dans les années 80. Il avait imaginé une montre numérique Voilà, alors que maintenant, on sait ce que c'est. Et il avait également imaginé un téléviseur à écran plat. Alors aujourd'hui, c'est d'une banalité. Rappelez-vous les téléviseurs de l'époque, hein, les tubes cathodiques très volumineux. Et donc lui, dans les années 80, il avait déjà imaginé ces écrans plats pour les téléviseurs. Donc voilà, Clive Sinclair est donc décédé il y a quelques jours à Londres, à l'âge de 81 ans. Il était important dans cette émission où on parle de science, on parle de technique, on parle d'avancée dans notre société, et bien de pouvoir un petit peu mentionner et d'avoir un hommage pour Clive Sinclair. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. On écoute un peu de musique. Alors c'est là qu'il faut pas que je fasse de bêtises. Je suis désolé, je suis en train de reprendre mes marques, mais on va écouter Alan Corbell sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après, bien sûr.
Into darkness, the latest news had never come. I just wondered if you were safe wherever you might have gone. Polluted rain is now falling down on me. It's been a while with no pain since I didn't see you. Heavy rain on my back, muddy thoughts and faded hopes. Daddy boots on a flooded track, my burning hand still holds a rope. Polluted rain is now falling down on me. It's been a while with no pain since I didn't see.
Alan Corbell avec The Rain sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien sûr, en direct ou en différé. Nous sommes en direct, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer des SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Je vous rappelle que dans 15 jours, émission spéciale Fête de la Science en direct de 14h à 16h. 2 heures de direct au cœur du village de la technologie où on va pouvoir échanger avec les chercheurs, comprendre ce qu'il se passe comme travaux de recherche dans les laboratoires de l'Université de Technologie de Compiègne, mais également de l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale. Tout ça est à Compiègne, c'est la fête de la science. C'est la fête de la science un petit peu partout d'ailleurs chez vous. Renseignez-vous, c'est une manifestation nationale qui a lieu en France métropolitaine toute la première semaine du mois d'octobre, si je n'ai pas de bêtises. Mais c'est également un événement francophone. Donc on peut retrouver en novembre également la fête de la science un petit peu partout dans le monde, dans les pays francophones. C'est vraiment un événement que je vous incite à y aller, en fait, parce que ça va vous permettre de pouvoir échanger directement avec les chercheurs, comprendre un petit peu ce monde qui nous entoure. C'est une fête de la science en présentiel, qui est un mot un peu à la mode maintenant, mais effectivement ça avait été annulé l'année dernière pour les raisons que l'on sait, et c'était resté uniquement par le biais de la vidéo. Et donc là on revient cette fois avec une vraie rencontre et voir des vrais gens, des vrais matériels, et rentrer aussi dans les bâtiments, dans les locaux, dans les laboratoires de l'université. C'est un moment aussi assez unique, donc il faut en profiter. C'est gratuit en plus et c'est pour tous les publics, les plus jeunes, les moins jeunes, parce qu'évidemment il y a un effort de la communauté scientifique pour pouvoir vous expliquer, vous proposer des activités que vous allez pouvoir faire, réaliser des expériences également. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et les sujets qu'on évoque à la fête de la science sont souvent des sujets de la recherche actuelle. Donc on se tient au courant de l'actualité de la recherche scientifique, ce qui est un peu le cas dans cette émission aussi. Et on va retrouver ça dans notre vie quotidienne. Je me souviens qu'il y a 20 ans, la fête de la science de l'ITC présentait des véhicules autonomes. Alors c'était totalement innovant. On avait vu un véhicule qui se garait tout seul. Là, la conduite assistée automatique qui vous permet de vous garer tout seul, c'est maintenant une option dans nos véhicules. Et donc du coup, c'est ça, c'est de voir un petit peu comprendre aujourd'hui notre monde de demain. Et c'est aussi l'un des buts de la fête de la science, l'autre but étant bien sûr de susciter un peu d'évocation chez les jeunes, et on en a fort besoin, parce qu'on voit très bien que depuis quelques mois, depuis l'année dernière, depuis ce satané Covid, on voit très bien que l'image de la science, elle n'est pas facile à défendre face à des fake news, face à des informations totalement incompréhensibles ou totalement... Je veux dire, il y a des choses ahurissantes que l'on peut entendre. Et on entend vis-à-vis de ce vaccin aussi un peu tout et n'importe quoi. Et on a entendu, mais je veux dire, il y a un moment où on se dit qu'il faut quand même essayer d'avoir du bon sens. On a entendu le fait que l'on pouvait peut-être mettre des puces 5G dans ces vaccins, et donc on va nous injecter une puce 5G et pouvoir l'activer à distance et ainsi de suite. On a tous entendu ça, et la difficulté c'est que certains le croient, et je veux bien l'entendre, dans le sens où finalement on leur donne peut-être pas des informations assez claires pour leur expliquer que non, ça n'est pas possible. Il y a un article de Futura Science que j'ai trouvé intéressant et que du coup j'ai envie de vous présenter, de vous lire, qui justement explique que c'est pas possible de le faire. C'est assez intéressant de voir que cette rumeur de cette puce 5G, l'idée bien sûr, si on injecte une puce 5G, cette puce elle est totalement microscopique bien sûr pour pouvoir l'injecter via une seringue, eh bien ça a un lien après avec la théorie de Gordon Moore, qui est l'un des fondateurs d'Intel, et il avait énoncé une espèce de loi, la loi de Gordon Moore, qui indique que en fait on double le nombre de transistors sur une puce tous les 2 ans environ. C'est-à-dire que on arrive à avoir des puces électroniques de plus en plus performantes et d'avoir également des puces de plus en plus réduites en taille. Donc on arrive à une optimisation de plus en plus efficace, et le composant à semi-conducteur qui va réaliser un petit peu cette fonction d'amplification, elle a été mise au point dans les années 50 déjà. Le nom commercial qui avait été choisi par les laboratoires Bell à l'époque, c'est ce qu'on appelle le transistor, bien sûr. Alors, ce premier circuit intégré, il a donc la possibilité de pouvoir réaliser directement, envoyer directement des informations. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez ancien. Ça date donc, le tout premier date des années 50. On commence à industrialisé cela dans les années 60, bien sûr. Les circuits carrés que l'on connaît tous, eh bien, ils sont réalisés et placés les uns à côté des autres pour essayer un petit peu de pouvoir optimiser la place, bien évidemment. On est aussi quelque part dans un objectif de miniaturisation des choses, bien sûr. En 2021, donc aujourd'hui, IBM a annoncé il n'y a pas longtemps une réalisation de transistors avec une zone active de 2 nanomètres. Alors le nanomètre, pour vous et moi, on ne sait pas ce que c'est. C'est de l'infiniment petit, ok, mais ça ne dit pas grand-chose. En fait, il faut se dire qu'on prend 20 atomes. Alors 20 atomes, on comprend que quelque part, c'est extrêmement petit. Et du coup, IBM a réussi à annoncer la réalisation de ce transistor sur une surface de 20 atomes. Alors effectivement, on se dit que 20 atomes, c'est tellement petit que ça pourrait effectivement être injecté via une seringue. Sauf que il faut essayer d'en savoir un petit peu plus. Et cet article de Futura est assez intéressant parce que effectivement, admettons, on est toujours dans le principe de admettons. Allez, ok, on injecte un transistor, un circuit intégré qui passerait par le trou de la seringue. Alors, le circuit, il est fatalement carré, on n'a pas trouvé encore d'autres formes. Donc, mettre un carré dans une seringue ronde, bon, ça implique, d'un point de vue géométrique, des difficultés. Mais admettons, allons-y, allez hop, on nous injecte ça. On nous injecte donc le fait qu'on pourrait essayer d'avoir des transistors qu'il faudrait ensuite activer, parce que ça ne nous sert à rien d'avoir des transistors dans le corps humain si on ne peut pas les activer. Et cet article est assez intéressant parce qu'un transistor sans pouvoir l'activer, ça ne sert à rien. Et donc du coup, pour pouvoir l'activer, il faut pouvoir ensuite avoir des antennes. Le transistor, lui, tout seul, ne peut pas. Si on rajoute les antennes, là, ça cale un petit peu, parce que les antennes, pour l'instant, on n'arrive pas encore à trouver une technologie qui permet d'avoir des antennes très petites. Donc, fatalement, les calculs que l'on peut faire précisent qu'on ne pourra pas, de toute façon, même si on injecte une puce électronique, on ne pourra pas injecter via la seringue l'antenne qui va avec. Mais admettons, allez, on est fou, on se dit, bon, on nous met une antenne qu'on arrive à mettre dans le corps humain. Il va falloir l'activer, cette antenne. Et en fait, pour pouvoir l'activer, ce n'est pas la peine d'avoir toute une technologie de transmission de données sans fil assez performante, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une notion de portée, c'est-à-dire qu'il faut être à côté de cette antenne pour pouvoir la transmettre. Vous voyez très bien dans le paysage qui nous entoure les antennes gigantesques pour pouvoir essayer de transmettre l'information. Si vous avez une antenne rikiki dans votre corps, ça ne pourra pas transmettre une information et ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il faut se coller directement le corps humain avec un récepteur assez puissant et assez performant, ce qui n'est pas le cas. Et donc, du coup, cet article explique très bien, et vous le verrez sur Futura Science, vous allez sur le site de Futura, c'est un article en ligne qui est gratuit. Vous pouvez le lire de façon reposée pour avoir tous les arguments. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, admettons, mais non, c'est pas possible en fait. Donc arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Pour l'instant, on ne met pas des puces 5G dans les vaccins pour pouvoir les activer, pour qu'on devienne après lobotomisé ou ensuite que l'on puisse, je ne sais qui, nous contrôler à distance. Arrêtons cette folie, mes enfants, parce que ça devient inquiétant que ce genre d'informations prennent une ampleur de plus en plus importante. Techniquement, scientifiquement, c'est impossible. Point barre. Et à partir de là, il faut essayer de convaincre les gens qui vont dire « Mais oui, mais qui te dit ça ?» et ainsi de suite. C'est un combat qui est... C'est un vrai combat, en fait, je pense. Un combat sans fin qu'il va falloir mener et qu'on essaye de mener régulièrement dans cette émission. Je vous rappelle ce que je vous disais en début d'année. Janvier 2021, on sortait, je crois, d'une phase... c'était assez compliqué. Non, il y avait le couvre-feu. On était en plein dedans. Je vous disais, prenez du bon sens. Prenez du recul et ayez du bon sens. On voit très, très bien que c'est pas toujours simple et pas toujours évident. Et du coup, voilà, essayez de vous renseigner, de lire des revues scientifiques de qualité, qui sont des revues scientifiques que l'on peut comprendre parce qu'elles sont vulgarisées. Il faut faire cet effort-là, en fait. Malheureusement, il faut avoir une notion d'effort, bien sûr. Et c'est un petit peu aussi le combat de cette émission depuis plusieurs années. On essaye un petit peu de transmettre un peu de culture scientifique et ça fait du bien. Culture scientifique et musique, bien sûr. Et on continuera, il est déjà 12h32 sur l'antenne de Graphite, ça passe à une vitesse précise. On parlera toujours du vaccin, et cette fois du vaccin par voie nasale, c'est-à-dire une espèce de spray nasal. Et ça se précise, on pourrait peut-être avoir ça bientôt, on écoute ça. Bien sûr, juste après... Corde bref sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026 si vous souhaitez bien sûr réagir en direct. Non, ça va pas marcher, c'est Black Pumas. Ça marche toujours pas. Oh là là, c'est une catastrophe en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Excusez-moi, c'est du direct et vous avez compris que j'étais pas vraiment fino. Si, c'est parce que je me suis trompé de bouton. Il y a toujours ce bouton de droite. Black Pumas sur l'antenne de Graphite, c'est parti. Black Pumas avec Oldman sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise, la Somme. graphite.net pour ceux qui nous écoutent partout, même peut-être à la Station Spatiale Internationale, allez savoir. Vous suivez l'actualité de Graphite, bien sûr, sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Je rappelle que c'est la 10e bourse au disque et au BD qui aura lieu le dimanche 24 octobre. C'est à la salle Marcel Guérin à Margny. Inscription sur en écrivant à Graphite, bien sûr, sur le site graphite.net si vous souhaitez vous inscrire. Et donc, si vous souhaitez visiter cette 10e bourse au disque et au BD, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que maintenant, c'est un événement de grande envergure le 24 octobre. À Margny, on aura bien sûr l'occasion pendant tout le mois d'octobre de revenir sur cet événement Made in Graphite. Déjà la 10e bourse, c'est grand maintenant, ça grandit tout ça, c'est effrayant parce qu'en même temps on vieillit. Je parlais donc du vaccin. Donc, il n'y a pas de puce dans le vaccin, on le sait. Mais la possibilité maintenant d'un vaccin par voie nasale. Selon l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, c'est l'ancien INRA. Alors, on ajoute l'environnement et maintenant c'est l'INRAE. Eh bien, il y a des tests précliniques de ce vaccin par voie nasale qui ont été réalisés et qui ont montré des résultats très positifs d'après le communiqué donc de l'INRAE. Ils ont été menés sur des souris et des hamsters. En fait, ce sont des protéines virales, donc des protéines du virus, qui ont été mises en capsule avec une capsule qu'on va créer à base de lipides, donc de gras entre guillemets, pour que ça fasse une belle capsule et un peu d'amidon. Et on met tout ça dans le nez, en clair. Alors attention, c'est des résultats qui ont été communiqués, mais qui n'ont pas encore été publiés dans une revue scientifique, hein, faut quand même le noter. L'INRAE a travaillé avec l'université de Tours, et ils expliquent que la plus-value de ce vaccin réside donc dans la capacité à couper la transmission entre individus, parce qu'on agit directement sur la muqueuse nasale. Et contrairement aux vaccins traditionnels que l'on connaît, qui sont des vaccins intramusculaires, donc que l'on met à l'intérieur du muscle, eh bien, seuls les vaccins que l'on met par voie nasale, donc on met dans le nez, seraient capables d'éviter la présence de virus justement dans le nez, qui est le stade initial de l'infection. Et ces vaccins induisent une immunité au niveau des muqueuses nasales qui sont un petit peu la porte d'entrée pour pouvoir ensuite permettre au virus de pouvoir se multiplier. Donc si on bloque cette porte d'entrée, le virus va avoir un petit peu plus de complications pour se multiplier au sein du corps. C'est ce qu'expliquent les chercheurs dans un communiqué. Alors la responsable de l'équipe de recherche, elle s'appelle Isabelle Dimier-Poisson, elle explique que les expériences ont montré que le vaccin arrête très précocement la transmission. Elle explique « Je travaille sur des animaux qui sont infectés. Deux jours après, je constate que la charge virale dans les poumons est explosive. Et si je regarde la même chose avec des animaux qui ont été vaccinés, et qu'ensuite on va infecter, eh bien, je ne retrouve aucune trace du virus dans les poumons », dit-elle. C'est un vaccin où il n'y a pas d'adjuvant, donc il n'y aura pas de puce 5G sûrement, et c'est un vaccin qui s'appuie sur des chercheurs et des industriels basés en France. Ça y est, on va peut-être y arriver, en avoir un. Ça pourrait aussi servir de rappel dans la population déjà vaccinée, afin d'éviter bien sûr la transmission de la maladie. Alors, selon donc Isabelle Dimier-Poisson, l'équipe de recherche a réussi à obtenir 100% de survie sur des souris vaccinées et qui ont été ensuite infectées par le Covid, et contre 100% de mortalité pour les souris qui n'ont pas été vaccinées et qui en a balancé le Covid. Donc les résultats de ce qu'elle annonce sont quand même très performants. L'équipe de recherche espère démarrer donc dès l'automne la phase de production en vue bien sûr d'une phase clinique. On parle du deuxième semestre 2022. Alors il va falloir quand même être patient, il va falloir quand même encore attendre un an. En tout cas, la mise sur le marché serait prévue pour 2023. Alors techniquement, le vaccin sera administrable à l'aide d'un petit adapteur placé au bout d'une seringue sans aiguille qui permet une diffusion au sein de la cavité nasale. Donc on est plutôt, pas nécessairement sur l'idée d'un spray, mais l'idée un petit peu d'une injection. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, les gouttes dans le nez, comme on disait à l'époque. C'est un petit peu ce principe-là, mais en tout cas, voilà, la communication de l'INRAE avec l'Université de Tours est assez prometteuse. Alors, n'y a pas que en France où on travaille sur un vaccin nasal, mais en tout cas, c'est pour l'instant assez prometteur, même si on a compris qu'on est encore très très loin d'avoir un résultat concluant, parce qu'il n'y a toujours pas eu des tests sur l'homme, bien sûr. Donc on suivra ça, bien évidemment, mais c'était assez intéressant aussi d'apporter un petit peu d'optimisme dans cette situation. Optimisme, eh bien, c'est l'espace qui nous l'apporte, c'est bien sûr les études des roches qui ont été prélevées, qui ont été stockées par Persévérance. Nous sommes sur Mars et ces premières études présagent du meilleur pour la suite de la mission. Il y a eu un communiqué il y a quelques jours de la NASA qui annonce que des analyses ont été menées sur des échantillons qui ont été forés par le rover qui est sur Mars et la pierre qui a été prélevée et dans laquelle il y a des prélèvements qui ont été réalisés. Alors on l'a appelé Rochette, hein, on ne s'est pas foulé au niveau du nom bien sûr, mais en tout cas les éléments indiquent qu'on pourrait confirmer la présence d'eau à la surface de Mars et notamment au niveau du cratère dans lequel on avait décidé de se poser, une présence d'eau il y a 3 milliards d'années. Oui, donc ce n'est pas une présence d'eau qui date d'hier, 3 milliards d'années. Et ça pourrait aussi confirmer des traces potentielles de vie, une vie qui est désormais éteinte sur Mars, mais qui aurait pu avoir lieu il y a quelques milliards d'années, bien sûr. Les calcul de la NASA était donc juste, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé de se poser sur une zone particulière qui est fameuse, ce cratère J0 qu'on avait déjà évoqué dans cette émission, parce qu'on considérait que c'était l'endroit le plus approprié pour pouvoir étudier un petit peu l'histoire et l'évolution de Mars. L'une des idées de cette mission, c'est d'essayer d'en savoir plus sur la vie de Mars, de savoir son passé, de mieux comprendre son passé, et donc on avait considéré qu'en se posant à cet endroit précis, on aurait les possibilités, les meilleures conditions pour pouvoir recueillir des informations. C'était ça un peu l'idée. Eh bien, effectivement, c'est ce qui semble être le cas. Les deux échantillons qui avaient été ponctionnés donc dans cette zone-là, c'était le 6 et le 8 septembre dernier. Eh bien, les échantillons démontrent que ce sont des roches ayant une activité volcanique dans cette région de Mars. Et ça permet un petit peu aux chercheurs de remonter l'évolution un petit peu géologique au sein de ce cratère. Il y a un autre élément majeur qui a été détecté dans les petites roches et qui ont donc ensuite été analysées, c'est qu'elles contiendraient des sels minéraux, témoins donc de l'existence d'eau, une eau aujourd'hui évaporée, mais une eau qui aurait donc été présente sur cette zone de ce cratère J0. Et donc, comme le précisent les ingénieurs de la NASA, l'eau peut être bien sûr bénéfique au développement d'une vie microbienne. Et bien du coup, on considère que en fait, ce cratère J0 pouvait être à l'époque un lac qui, c'est une information, une hypothèse qui devient de plus en plus une certitude apparemment. Alors les scientifiques espèrent pouvoir désormais dater avec exactitude la durée de vie de ce lac, quelque part, avant son assèchement, il y a environ, comme je vous l'ai dit, 3 milliards d'années, et on pourrait ainsi trouver des traces potentielles d'une ancienne vie organique. Si on arrive à trouver ça, ça va être quand même assez révolutionnaire. Alors, rappelons que Persévérance, c'est pas le seul rover qui travaille sur place pour essayer de trouver des sels minéraux. Il y a Curiosity également. Alors, Curiosity, il est à 3000 km de Persévérance. Curiosity, lui aussi, essaye de récupérer des roches, essaye de les étudier. Et bien, ils participent tous, justement, pour essayer de raconter l'histoire géologique de Mars. Et donc, ils vont continuer leur mission. Ce qui est assez intéressant, et quelque part une bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a quand même envoyé sur Mars, quand même assez loin de la Terre, des rovers, des outils, toute une machinerie pour essayer de récupérer des données. Ça fonctionne sur place, ça nous permet, on arrive à recueillir ces informations. Enfin, je veux dire, d'un point de vue technique, c'est quand même une performance extraordinaire qu'on est en train de vivre. Et donc, du coup, on est à des milliers de kilomètres de distance et finalement, on arrive à avoir des informations et on en aura de plus en plus. C'est une mission toute récente, hein. On avait évoqué ça avant l'été, bien sûr, sur Mars. Et on commence déjà à avoir des informations. Donc, c'est quelque part, on n'attendait peut-être pas nécessairement des informations aussi rapidement, mais on en a, ça fonctionne. Et puis quelque part, la NASA est assez fière aussi de montrer que ça fonctionne, bien sûr. Vous pensez bien qu'il y a aussi quelque part derrière un peu une communication entre les différentes agences spatiales, un peu de concurrence. Mais ça fait pas de mal si ça fait avancer la science. Métabodise maintenant sur l'antenne de Graphite. 12h46, on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite. Ah, ça réveille, ça fait du bien. Métabodise avec Waouh sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Je rappelle la fête de la science qui aura lieu le samedi 9 octobre à l'Université de Technologie de Compiègne. Donc du coup, nous serons en direct le samedi 9 octobre entre 14h et 16h pour vous proposer une émission spéciale fête de la science avec plein d'invités qui vous donneront peut-être l'envie de visiter cette manifestation donc dans 15 jours, le 9 octobre à partir de 14h. Pour terminer cette émission, il est déjà 12h50. Deux informations, dont l'une qui n'est pas nécessairement réjouissante, mais à un moment, voilà, faut essayer de prendre du recul avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. On a bien sûr commémoré les attaques terroristes du 11 septembre sur le World Trade Center à New York, bien sûr. Et il y avait un article de Futura après, que je trouvais assez intéressant, qui revient sur le fait que ces fameux Twin Towers, eh bien, elle tue toujours 20 ans après leur effondrement. Officiellement, ces attentats ont causé la mort de 2753 personnes. Et on apprend qu'après l'attentat, plus de 100 000 intervenants et secouristes sont venus de tous les États américains, bien sûr. Il y avait également 400 000 résidents et d'autres travailleurs qui étaient présents autour de la zone. Et donc, tous ont été exposés à un nuage de poussière toxique qui est retombée sous la forme d'une espèce de d'épaisse couche de cendre. On a tous vu ces images. Et ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, il y a eu une espèce de nuage un peu fantomatique qui est resté dans l'air pendant plus de 3 mois. Ça, on n'en a jamais véritablement évoqué, mais de toute façon, c'est pas parti comme ça d'une façon rapide. Ce panache de poussière du World Trade Center était constitué d'un mélange assez dangereux de poussière, de particules de ciment, d'amiante, de plusieurs types de polluants. Et ces polluants sont en général des produits chimiques qui comprennent entre autres des dioxines. Et quand on parle de dioxines, eh bien, on fait très souvent le lien avec les cancers. La poussière contenait également d'autres éléments dangereux, des métaux lourds qui sont connus pour être toxiques pour le corps humain et aussi pour le cerveau. On pense notamment au plomb, parce que le plomb, on l'utilisait un petit peu dans les câbles électriques, au mercure qui était présent notamment dans les lampes fluorescentes, dans les interrupteurs. On peut aussi penser au cadmium qui, lui, s'attaque aux rats et qu'on retrouvait dans les batteries, qu'on retrouvait dans certaines peintures également. Donc tout ça se retrouve dans la poussière, une poussière qui était soulevée, qui était donc composée de grosses particules, mais aussi de particules plus fines, voire très fines. Et en fait, ces particules extrêmement petites, elles sont connues pour être hautement toxiques, en particulier pour le système nerveux, parce qu'elles peuvent traverser directement, rentrer dans le nez, et ça traverse directement la fosse nasale, et ça atteint directement le cerveau. Et il y a donc de nombreux secouristes, entre autres, et d'autres personnels qui ont été directement exposés à cette poussière. Ils ont sur l'instant développer une espèce de toux assez grave et assez persistante qui a en moyenne duré 1 mois. Et ensuite, en fait, eh bien, une espèce de vague de maladie chronique qui s'est mise en place et qui a commencé à se propager et qui continue un petit peu à affecter ces personnes 20 ans après. C'est pour ça que cet article est assez intéressant parce qu'on fait un petit peu un recul, on regarde vers le passé et on essaye d'analyser un petit peu, de voir toutes les conséquences qu'on n'a pas nécessairement identifiées dès le départ. Il y a une litanie de maladies respiratoires qui a été également constatée dans la population qui a été concernée et qui était présente sur ces zones-là par rapport au reste de la population américaine. C'est-à-dire qu'on fait des comparaisons, on voit très bien que les gens qui étaient sur place, eh bien, ont développé des maladies chroniques par la suite que la population générale n'avait pas développé. Et puis, il y a également des cancers qui ont commencé à apparaître chez les survivants environ 8 ans après les attentats. Des tumeurs du sang, des tumeurs également au niveau de la tête, au niveau du cou, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du poumon, cancer de la thyroïde, n'en jetez plus. D'autres éléments également qu'on soupçonne bien évidemment, et cet article est assez intéressant parce qu'il permet aussi de parler de tout ce qui est traumatisme psychologique qui a entraîné beaucoup de problèmes de santé mentale persistants. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière qui avait révélé que sur plus de 16 000 intervenants du World Trade Center, pour lesquels on avait recueilli des données, on s'est rendu compte que près de la moitié avait signalé un besoin de soins en santé mentale, ce qui est quand même assez important. 20% de ceux qui ont été directement touchés ont développé ce qu'on appelle les troubles du stress post-traumatique, bien évidemment. Et ils expliquent le fait d'avoir vu des scènes totalement horribles de corps déchiquetés, des scènes de carnage. Ça les a bien sûr marqués à vie. Et donc, du coup, ils sont incapables de pouvoir oublier ces images, bien évidemment. Et donc, ils vont souffrir de troubles de l'humeur, de déficience cognitive, de problèmes de comportement par la suite. Et ça dure. Ça fait 20 ans. Ils sont également confrontés, ces survivants, à une autre chose. C'est qu'ils vieillissent. Et donc, du coup, il y a aussi la notion un petit peu de baisse de l'activité, de retraite, qui fait que, quelque part, ça va encore ajouter et renforcer un petit peu le déclin de la santé mentale. Le vieillissement peut également s'accompagner de pertes de mémoire, d'autres problèmes cognitifs, bien évidemment. Et il y a des études qui ont montré que ces processus naturels qu'on va tous subir, bien sûr, on vieillit, donc on a une déficience d'un point de vue cognitif, bien sûr, mais en tout cas, pour ces personnes-là, eh bien, ça s'est accéléré, c'est plus grave, c'est beaucoup plus prononcé pour les personnes qui ont donc vécu ces attentats, ce qui est un peu le cas également pour les anciens combattants de guerre, bien sûr. C'est une tendance évidemment préoccupante parce qu'il y a un nombre croissant de recherches qui établit un lien entre, bien sûr, les troubles cognitifs chez ces personnes et même ces notions de démence. Il y a un article récent du Washington Post qui expliquait que eh bien, ces personnes sont confrontées à des troubles similaires à la démence dans l'âge de la cinquantaine, c'est bien sûr bien plus tôt que la normale. Donc voilà, il y a énormément d'éléments et de recherches qui ont été menées. Et donc cet article de Futura permet un petit peu d'expliquer, de faire un bilan un peu catastrophique de ces attentats. On rajoute à cela, bien sûr, l'épidémie de Covid-19 qui rajoute encore quelque chose d'anxiogène qui va freiner peut-être aussi des remèdes, des thérapies et ainsi de suite. Bref, on se rend compte 20 ans après qu'on a sous-estimé l'impact, bien sûr. On a donc un nombre de morts officiels et on a un nombre de malades qu'on, en fait, quelque part, on n'arrive pas trop à estimer. On parle du 11 septembre et du coup, l'article fait un lien avec ce qui s'est passé à Beyrouth, c'était l'année dernière, cette explosion en août 2020, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu très peu de mesures qui ont été prises pour essayer d'étudier, essayer de gérer un petit peu les conséquences sur la santé physique et mentale parmi les personnes qui ont été touchées. C'est-à-dire que quelque part, on n'apprend pas, en fait, de ce qui s'est passé. C'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, c'était un article qui permettait de voir qu'après 20 ans, après leur effondrement, eh bien, ces fameux Twin Towers agissent toujours et tuent toujours. C'était le titre de cet article de Futura Science, 12h58. On va terminer cette émission avec cette dernière information que vous avez peut-être écoutée dans la semaine. C'est l'Union européenne qui veut essayer de uniformiser les connecteurs de recharge des téléphones portables. Et l'Union européenne va présenter un projet de directive. L'idée, c'est qu'à l'horizon 2024, eh bien, il y aura un seul connecteur obligatoire dans les États membres de l'Union européenne. Et ce connecteur serait l'USB-C. Donc, ceux qui n'ont pas Apple savent ce que c'est. Ceux qui ont Apple savent que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, il y a des tractations en cours parce que Apple conserverait et souhaiterait conserver son fameux câble dont il est propriétaire, bien sûr. Mais voilà, il y a eu une idée au niveau de l'Union européenne de pouvoir uniformiser cela. Ça a été annoncé cette semaine. Et donc, du coup, un projet de directive qui va obliger tous les constructeurs de téléphones portables à rendre compatibles avec un connecteur de recharge unique. Alors, en soi, c'est vrai que ça serait pratique, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a un problème de portable, on n'a jamais les câbles qu'il faut. Mais il y aurait une entrée en vigueur en 2024. Alors, on voit très bien que de toute façon, Apple, on apprend que Apple avait déjà commencé à mener ses études également pour avoir un chargeur qui permet d'avoir ce fameux connecteur USB-C, donc ces espèces de... C'est une petite clé USB, enfin cette petite prise que l'on connaît déjà depuis un certain temps, et que du coup, il y aurait toujours la possibilité pour Apple de à la fois proposer l'USB-C et peut-être de conserver aussi son propre connecteur Lightning qui existe déjà. Donc voilà, l'Europe parle et l'Europe s'exprime sur la technologie. Mon Dieu, c'est ce qu'on aura appris peut-être aujourd'hui dans cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. C'était une émission, oui, un petit peu plombante, mais bon, la science, c'est ça aussi. Ça sera plus gai la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va parler des IG Nobel. Alors, il y aura les prix Nobel qui vont être annoncés dans quelques jours. Eh bien, on parlera aussi de ces IG Nobel. Ce sont des études scientifiques assez insolites qui ont été récompensées. C'est drôle et ça nous fera du bien. Samedi prochain, 12h sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée sur l'antenne de Graphite, graphite.net ou 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bonne FM, bande FM. Bonne journée à tous et soyez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt.